Alors, la création du CIF dans les années 1990, au début des années 1990, la création du CIF a été motivée par trois grands facteurs. Un facteur politique, un facteur scientifique, c'est par lui que je commencerai, et je dirais un facteur pratique. Alors, le facteur scientifique. Nous étions un certain nombre de collègues, Elisabeth Fiché, qui a créé avec moi le CIF, mais aussi Geneviève Jacquinot, à laquelle j'avais fait appel, et puis d'autres. Nous étions un certain nombre de collègues à constater une grave pénurie, une grave lacune dans le domaine des recherches sur l'éducation. Cette lacune était celle qui concernait les questions d'industrialisation. Les psychologues, les pédagogues, les technologues de l'éducation faisaient comme si aucun phénomène d'industrialisation n'avait gagné l'éducation durant au moins les 40, 50, pour pas dire plus, années qui nous précédaient. C'était un peu comme si un sociologue de la culture s'était intéressé aux modalités d'accès à la culture des gens de tous les jours. Sans constater, sans partir du constat que la radio, la télévision, l'édition, la presse, le monde musical étaient industrialisés. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de phénomènes de standardisation, de normalisation, de rationalisation qui ne pouvaient pas ne pas avoir d'influence sur les pratiques elles-mêmes.
Did you see any kangaroos?
Did you see any kangaroos?
Did you see any kangaroos?
Donc, nous sommes partis de cette idée qu'il fallait réinscrire ou inscrire la question industrielle au cœur des travaux d'approche sur les mutations de l'éducation. Ça n'a pas été sans mal, parce qu'un certain nombre de pédagogues et de psychologues ont évidemment contesté l'idée que l'éducation puisse, comme la culture en général, être industrialisée. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le deuxième facteur, c'est un facteur politique. Et là, c'est l'inverse. Autant le monde de la recherche était réticent à l'idée de réfléchir aux questions d'industrialisation de et dans la formation, autant le monde politique, lui, était très attiré par la perspective industrielle. Et on voit bien évidemment les raisons, en tout cas un certain nombre de raisons, de cette attirance du monde politique pour les questions d'industrie éducative. La première, c'était évidemment que les décideurs pensaient que l'introduction de systèmes techniques allait permettre de réaliser des économies, ce qu'on appelle la substitution du capital au travail. À la place des profs, on met des machines. À la place des secrétaires ou des gestionnaires, on met des dispositifs techniques, des réseaux. Mais il y avait aussi une autre raison que nous avons découvert petit à petit et que nous nous sommes efforcés de mettre en valeur, qui est le fait que, contrairement à ce que on pouvait penser, l'industrialisation de l'éducation était un peu synonyme de sa démocratisation. La massification de l'éducation passait par l'introduction de méthodes industrielles, d'outils industriels, et permettait du même coup d'espérer atteindre une forme de démocratisation. Là aussi, nous avons eu beaucoup de mal par rapport aux politiques parce que nous expliquions aux décideurs que l'introduction de dispositifs techniques ou de méthodes industrielles pouvait certes permettre de réaliser des gains de productivité, pour employer un mot emprunté à la terminologie industrielle, dans certains secteurs, mais qu'en réalité, ça coûtait globalement plus cher. Et puis, un troisième facteur qui était un facteur pratique. La plupart de ceux qui ont fait partie du CIF et qui en font encore partie étaient des collègues désireux de favoriser les transformations de l'éducation et des transformations dans un sens progressiste. Or, il nous apparaissait que, par exemple, le recours aux dispositifs techniques, Au départ, c'était simplement la petite informatique ou la très grosse informatique, puis ça a été l'audiovisuel, puis nous avons réfléchi à la télématique, nous avons réfléchi aux vidéodisques, aux satellites utilisés pour acheminer à grande distance des cours, puis nous avons réfléchi au réseau numérique et à tous ces dispositifs que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, il nous paraissait que l'utilisation de ces outils, de ces moyens, de ces systèmes permettant de favoriser un plus grand accès aux ressources, une plus grande fluidité dans la gestion des modes d'enseignement, il nous paraissait que ces moyens ne pouvaient pas être utilisés comme s'ils n'avaient pas d'effet structurant sur les modes de fonctionnement des manières d'enseigner et d'apprendre. Et ces trois, la conjonction de ces trois facteurs est à l'origine de la création du CIF. Et ce que je viens de dire explique peut-être qu'il était indispensable que dans cette approche à la fois scientifique, politique et pratique, il était indispensable que plusieurs disciplines se mettent ensemble, que nous conjuguions les efforts de plusieurs disciplines. Et c'est ainsi que, très rapidement, nous avons sollicité un certain nombre de collègues dans les domaines, bien sûr, des sciences de l'information et de la communication, la discipline des fondateurs. Encore faut-il d'ailleurs préciser que dans cette discipline, il y avait des linguistes, il y avait plutôt des spécialistes des industries culturelles, il y avait plutôt des psychologues ou des sociologues, mais enfin, ils relevaient tous des sciences de l'information et de la communication, aussi bien évidemment des collègues de sciences de l'éducation, et on peut dire qu'à certains égards, la parité entre les deux disciplines a été de mise, mais aussi des collègues historiens, des collègues économistes et des collègues de gestion. Nous avons même eu épisodiquement des collègues travaillant dans des domaines de la philosophie, par exemple, de l'éducation. Et cette conjonction des facteurs et des disciplines a rendu possible ce travail de plus de 30 ans, ou de près de 30 ans, qu'a constitué, qu'a apporté le séminaire Industrialisation de la formation. Le mode de fonctionnement du séminaire Industrialisation de la formation a été très vite élaboré collectivement. Nous avions trois principes qui, jusqu'à aujourd'hui, ont prévalu. Le premier principe, c'était celui de la cooptation. Non pas que le séminaire Industrialisation de la formation, avec ses 20 à 30, dans les meilleures périodes, une petite trentaine de collègues se voulait un club élitiste, c'est pas du tout cela, mais c'est qu'il nous paraissait indispensable qu'une bonne entente puisse régner entre ses membres et qu'à ce titre, il y ait des adhésions, des demandes d'adhésion et des acceptations d'adhésion qui se fassent collectivement. Ça, c'est le premier facteur et il est important. Nous avons examiné, le petit noyau de départ a examiné systématiquement les candidatures de ceux qui se présentaient pour travailler avec nous. Je dois vous dire tout de suite qu'aucun n'a été rejeté, mais aucun n'a été rejeté parce que les deux autres principes ont joué aussi. Le deuxième principe, c'était qu'il fallait connaître nos travaux. Et non seulement il fallait connaître nos travaux, mais aussi il fallait participer aussi régulièrement que possible aux réunions. Nous ne souhaitions pas faire des réunions ponctuelles au cours desquelles nous aurions repris systématiquement les prémices, les points de départ, les postulats, etc. Nous souhaitions avancer et nous souhaitions donc que les membres du CIF soient au courant de ce qui s'était fait avant eux ou de ce qui se faisait, de manière à ce qu'il n'y ait pas la nécessité de reconstituer à zéro à chaque fois les points de départ. Ce qui ne nous empêchait pas, évidemment, de revenir très régulièrement sur nos postulats et nos prémices, mais qui se faisait collectivement et en connaissance de cause. Et puis, le troisième principe, c'était que les membres du CIF, chaque membre du séminaire Industrialisation de la formation, devait produire. nous avions et nous avons toujours beaucoup de possibilités, beaucoup de créneaux de publication. Nous organisions des colloques et c'était assez facile. Mais pour cela, il fallait que chaque membre du CIF ne soit pas une sorte de passager clandestin, mais qu'il soit un membre actif, écrivant et mouillant sa chemise en quelque sorte, de façon à ce que la démarche soit vraiment collective. Quand ces trois principes étaient respectés, eh bien, le candidat au séminaire industrialisation de l'information était évidemment automatiquement admis. Alors, le CIF lui-même a connu plusieurs périodes scientifiques. La première période a été, disons, la période des 4 ou 5 premières années. C'est soldé d'ailleurs par la publication d'un livre collectif qui s'appelle « L'industrialisation de la formation, état de la question ». C'était une période au cours de laquelle nous sommes efforcés de faire le tour du problème. Pas d'apporter des réponses, mais simplement d'essayer de voir de quelle manière la question de l'industrialisation de l'éducation se posait dans les différents secteurs qui nous intéressaient. Ensuite, pendant une très longue période de pratiquement 15-20 ans, nous avons systématiquement exploré les différents niveaux auxquels la question de l'industrialisation de l'éducation, de la formation, nous semblait se poser. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la troisième et dernière période, c'est la période dans laquelle nous sommes engagés depuis 4 ou 5 ans et qui s'est achevée d'une certaine façon, car un cycle s'achève aujourd'hui, qui s'est achevée par la publication de notre anthologie. Cette période-là a consisté à essayer de retrouver dans les travaux antérieurs et en remontant jusqu'au début, tout début du XXe siècle, presque la fin du XIXe siècle, en essayant de remonter dans ces écrits-là pour y retrouver les questions dont nous avions pu mettre en évidence les différentes facettes au cours des périodes antérieures. Alors juste un dernier mot concernant la phase intermédiaire, car c'est d'une certaine façon la plus importante, même si le résultat final, l'anthologie, sanctionne l'ensemble. Le plus important a été quand même d'essayer d'identifier les différents niveaux auxquels la question de l'industrialisation de la formation se posait. Et nous avons assez rapidement établi une échelle de trois niveaux, c'est-à-dire trois ensembles de phénomènes dont la combinaison nous paraît constituer l'industrialisation de la formation. Le premier niveau, c'est celui de ce que nous avons appelé la technologisation, c'est-à-dire l'introduction de systèmes techniques, de dispositifs techniques, rendant possible l'automatisation, la mécanisation d'un certain nombre de tâches, aussi bien du point de vue des manières d'enseigner et d'apprendre que du point de vue de gérer les systèmes éducatifs, les institutions, les établissements. Le deuxième niveau, c'est celui de ce que nous avons appelé, en référence à Max Weber, la rationalisation. Cette rationalisation, c'est-à-dire l'optimisation des moyens par rapport aux fins, décrit la manière dont des méthodes permettent de mettre en œuvre les meilleures ressources pour les meilleurs résultats. Et tout ce processus de rationalisation est évidemment très présent dans l'éducation. Et puis enfin, un troisième niveau, plus problématique à certains égards, que nous avons appelé le niveau de l'idéologisation, en référence d'ailleurs à des travaux de Habermas ou de Marcuse, et qui porte en fait sur la rationalité de la rationalisation, c'est-à-dire l'ensemble des éléments mentaux, culturels, psychologiques, intellectuels, idéologiques, qui permettent de justifier la rationalité, la rationalisation éducative. Autrement dit, l'idéologisation, c'est le développement d'un ensemble d'argumentaires justifiant les deux niveaux antérieurs. Voilà ce que nous avons fait durant les 30 ans de fonctionnement du CIF.